Je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir au chapitre 2 de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 2, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 12. 1 à 12, Marc 2. Jésus guérit un paralytique. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime l'Évangile. Cet Évangile qui vient de nous être lu et qui nous dit de façon extraordinaire comment Dieu voit les choses. L'humanité est un peu comme se paralyser. Et ce que l'on apprend dans cette histoire qui vient de nous être lue, c'est que il y a des causes à la paralysie. Et la cause essentielle peut se résumer par un mot, péché. Ce n'est pas un mot que nous aimons beaucoup dans notre société, et pourtant c'est de cette façon-là que Jésus résume le problème. Le péché est entré dans le monde, et avec le péché, pas seulement la mort, mais aussi tous les désordres, les maladies, les infirmités, les guerres, les misères en tout genre, et notre humanité est là, sur une civière, comme un paralysé. Et c'est important de nous rendre compte que c'est bien le péché qui est la cause de toutes nos misères. Mais ce qui est extraordinaire quand on lit l'Évangile, c'est que tout de suite, auprès de Jésus, le personnage clé de ses livres, il y a la solution. Face au péché, il y a un mot qui jaillit, pardon. Jésus offre le pardon. Ça en choque certains, mais ça fait un bien fou, parce que quand Jésus a prononcé son pardon, alors tout ce qui nous ficelle, tout ce qui nous englue, tout ce qui nous paralyse d'une façon ou d'une autre peut être rompu. Et Jésus peut dire à cet homme, « Debout, lève-toi, prends ton lit, marche !» Et l'homme est guéri. Le pardon que Jésus accorde, c'est la première étape de la guérison, c'est la solution fondamentale à ce problème du péché. Alors cette histoire, elle est là, elle est belle, elle doit nous inspirer pour comprendre la vie et pour savoir où trouver les solutions aux problèmes qui sont les nôtres personnellement, qui sont ceux de nos familles, qui sont ceux de nos sociétés dans lesquelles nous vivons. Alors je voudrais vous inviter ce matin à relire deux versets de cette histoire et à nous pencher plus précisément sur des éléments qu'il nous apporte pour réfléchir de plus près. Ce sont les versets 3 et 4 de ce chapitre 2 de l'évangile de Marc. L'histoire est racontée ainsi. Des gens vinrent à lui, c'est-à-dire à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et puis le tout début du verset 5, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique. Voilà des gens. Et ce qui m'intéresse dans ces quelques lignes, ce sont les personnages qui sont mentionnés. Il y a là des gens, on nous dit, on ne sait pas combien ils sont, mais c'est un groupe de personnes. Ils viennent avec, ce que j'appellerais le quadriporteur. C'est pas le triporteur, c'est mieux que ça, c'est le quadriporteur. Ils ont 4 porteurs qui sont là avec eux et qui transportent une civière, un brancard. Et sur ce brancard, il y a le paralysé. Mais quand ils arrivent devant la maison, il y a la foule, ils ne peuvent pas entrer. Jésus reste inaccessible pour ce groupe de personnes qui est là avec son quadriporteur. Et ces gens-là ne se laissent pas démonter. Non, ils vont devenir démonteurs. Ils montent sur le toit, ils démontent une partie de la toiture et font descendre ce brancard avec son occupant. Il y a là tout un jeu de personnes. Et je crois qu'il est important pour nous de réfléchir où nous nous situons dans ce genre d'histoire qui peut représenter l'histoire de notre humanité. Alors c'est vrai que quand on regarde l'actualité, on peut se dire que tout ce qu'on a vu dans ces derniers jours nous a donné l'impression qu'il y avait un espèce de biporteur, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, en train de se pencher sur le brancard de l'économie européenne et qui essaye de sauver la situation. Alors c'est vrai que dans notre société, lorsqu'on est devant une difficulté, on se tourne vers la politique. Et la politique est nécessaire. Il faut qu'il y ait des gens dans nos sociétés qui s'engagent à faire fonctionner la société. Et il est normal que devant une difficulté, nous nous tournions vers cet aspect-là de la vie pour trouver des solutions. Ceux qui se présentent aux élections, quel que soit le niveau où ils se présentent, prétendent servir la société, apporter des solutions aux problèmes auxquels leurs concitoyens sont confrontés. Et il est important de considérer que peut-être bien qu'ils représentent l'un des 4 porteurs, ceux-là. Évidemment, on a l'habitude aussi de se tourner vers l'économique, parce qu'on sait très bien que devant un problème, si on a les moyens financiers, on va pouvoir accéder plus facilement à une solution. Et c'est bien vrai que le monde économique a sa place. Aucun d'entre nous ne serait là sans ce monde-là, parce que nous avons travaillé, ou nous nous préparons, si nous sommes plus jeunes, à un jour exercer une profession qui nous permettra d'avoir une place dans ce monde économique et de pourvoir à nos besoins, d'essayer d'éviter d'être trop paralysés ou de nous sortir de nos paralysies parce que nous aurons quelques moyens. Et les plus âgés parmi nous bénéficient du travail qu'ils ont accompli pendant des années. Ils ont cotisé et ils reçoivent une pension, une retraite, qui les inclut toujours dans la vie économique. Et c'est vrai que l'économique reste donc aussi, peut-être, le deuxième de ces 4 porteurs. Et nous sommes bien conscients que ça ne suffit pas à trouver l'équilibre. Nous sommes dans une société qui a pensé depuis, en tout cas 2 bons siècles, que ce qui allait résoudre les problèmes de l'humanité, ce serait la science. Et c'est vrai que la science nous a pas mal aidés, il faut le reconnaître. Quand on est confronté à des problèmes de santé, eh bien, c'est normal qu'on fasse appel à ceux qui ont étudié la médecine, à ceux qui, en bénéficiant de l'accumulation des savoirs, des techniques, essaient de nous permettre de faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et on pourrait dire que la science, c'est peut-être le troisième de ces quatre porteurs. Et puis, évidemment, on n'oubliera jamais que l'être humain est un être sociable, relationnel, et que ce qui est la clé la plus souvent de la solution à nos problèmes, c'est la qualité des relations que nous avons créées au sein de nos familles. Parce que dans une famille, on est solidaire et on trouve les solutions auxquelles est confronté l'un des membres de la famille. On s'unit, on se rassemble, on fait l'effort et on essaie de résoudre les problèmes. Les relations sont familiales, les relations sont celles du voisinage. Hier encore, on me parlait d'une de nos membres d'église qui rentre de l'hôpital et qui découvre qu'un de ses voisins est dans une situation absolument très difficile. Et on se préoccupe du bien-être du voisinage. On est là peut-être encore plus concerné par la recherche d'une solution à cette humanité souffrante sur son brancard. Mais il est évident que même si l'on unit des porteurs, comme ces quatre exemples que je viens de prendre, le politique, l'économique, le scientifique et le relationnel, on n'a pas toujours la solution au problème. Alors c'est vrai que dans cette histoire de l'Évangile, ce qui est extraordinaire, c'est que le quadriporteur en question s'est dirigé vers la maison où se trouvait Jésus, parce que c'est lui qui a la vraie solution. Tout ce qui peut nous amener vers Jésus, tout ce qui peut nous faire avancer dans sa direction, tout ce qui peut unir les êtres humains pour mettre leurs forces en commun et porter le brancard de façon équilibrée sans renverser le malade, est certainement utile au bien de cette humanité. Mais on n'est pas là simplement pour réfléchir en termes de ceux qui essaient de s'approcher de Jésus. Nous sommes ici parce que le Seigneur Jésus nous a touchés, parce que nous étions sur notre brancard et un jour il nous a relevés. Il nous a accordé le pardon et il nous a dit, comme à cet homme, lève-toi, marche. Et nous marchons pour Jésus, du moins nous essayons. Et en tant que membres de l'Église adventiste, nous sommes embarqués ensemble dans un projet qui pourrait lui aussi être représenté par ce quadriporteur. L'Église adventiste a une habitude, une tradition de travail et de témoignage. Elle s'est toujours axée dans quatre directions avec quatre éléments qui donnent un équilibre à son intervention au nom de Jésus dans ce monde. L'Église adventiste se sent engagée à prêcher un message spirituel, à prêcher un message biblique, à annoncer le Dieu créateur et le Dieu sauveur, le Dieu qui est à l'origine et le Dieu qui vient bientôt pour établir son royaume, le Dieu qui a parcouru l'histoire de l'humanité et qui bientôt y mettra un terme. Cet aspect de proclamation, cet aspect de lien avec un Dieu, cet aspect de religion, de spiritualité, est l'un des éléments qui portent la mission de l'Église adventiste. Mais ce n'est pas le seul. L'Église adventiste a toujours ressenti qu'elle avait une responsabilité vis-à-vis de ses enfants, de ses jeunes, et vis-à-vis des autres enfants et des autres jeunes qui vivent dans la société. C'est la raison pour laquelle elle a un message d'éducation, c'est la raison pour laquelle il y a un peu plus de 33 ans, l'Église de Damary a créé la petite école qui est juste là derrière et s'est engagée dans la vie de l'éducation, dans le témoignage par l'éducation. L'éducation au sein de la famille, au sein des églises, avec ses activités de jeunesse, avec ses activités de formation dans tous les domaines, et avec son système d'école primaire, secondaire, universitaire dans le monde. Voilà le deuxième porteur de la mission adventiste. Et il est important de ne jamais l'oublier. Et puis, l'Église adventiste s'est toujours préoccupée aussi de la personne humaine dans sa globalité. Une personne qui n'est pas qu'un cerveau à éduquer, des mains à former pour travailler, et une âme à sauver, mais qui est souvent confrontée aux problèmes de santé physique, mentale, et qu'il faut donc aborder dans sa totalité. Et c'est la raison pour laquelle l'Église adventiste a un message qui est très lié à la santé. Nous avons organisé nos expos santé et nous continuerons à en faire. J'espère que bientôt nous contribuerons à en réaliser une avec notre groupe de jeunes volontaires à Auxerre, Connecte-toi, pour que par ce moyen-là aussi, ils puissent attirer l'attention de cette population souffrante du département voisin de Lyon et de l'agglomération d'Auxerre. L'Église adventiste, avec ses écoles d'infirmières, ses facultés de médecine, ses hôpitaux, ses dispensaires mobiles en avion ou en bateau dans différentes régions du monde, a là un troisième porteur de sa mission, de son message au monde. Mais jamais ces trois porteurs-là n'ont réussi à être équilibrés, de ne pas risquer de renverser le patient qui est l'humanité à laquelle il est envoyé, sans un quatrième porteur. Et ce quatrième porteur, pour nous, il s'appelle ADRA. C'est le porteur qu'on appellera humanitaire, celui qui est conscient qu'il y a des urgences plus grandes que les autres, qu'il y a des hommes et des femmes en souffrance, en grande difficulté, de pauvreté, en difficulté parce qu'ils n'ont pas les moyens, ni politiques, ni scientifiques, ni économiques, de faire face aux exigences de la vie et à la nécessité d'être debout. Et l'Église adventiste, partout où elle s'est implantée, à créer une action humanitaire, un désir de servir, à rassembler des forces pour se mettre au service des plus démunis et des plus faibles. Et aujourd'hui, ce service s'exerce au travers du réseau d'associations ADRA. ADRA, je vous rappelle, c'est le sigle en anglais du nom de cette association. Adventist Development and Relief Agency, ce qui se traduit en français, l'Agence Adventiste d'Aide et de Développement. Et nous avons le privilège d'avoir ici, au sein de notre église, Brina, qui est la responsable d'ADRA France. Et je vais lui demander de venir ici me rejoindre, parce que j'ai quelques questions à lui poser. Merci d'être avec nous, Brina. Brina, tu vois, je t'ai déjà comparé à l'un de ces membres du quadriporteur. Alors, ce n'est pas parce que tu as des muscles plus costauds que les autres, mais c'est parce que tu t'es engagé d'une façon particulière dans ce service. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé dans ADRA?
En fait, je n'avais pas prévu au départ de m'engager dans ADRA. J'avais prévu d'être diplomate, en fait, c'était mon rêve. Mais en fait, à la fin de mes études en relations internationales en 2005, j'ai eu la chance, la bénédiction de rencontrer la directrice d'ADRA Guinée, Conakry, qui est en Afrique de l'Ouest. Elle m'a invitée à y faire un stage. Alors, je suis allée sans trop savoir à quoi m'attendre. La Guinée était, à cette époque-là et encore aujourd'hui, le troisième pays le plus pauvre au monde. Et cette expérience a vraiment bouleversé ma vie. J'ai rencontré des gens extrêmement pauvres, mais qui avaient eu la vie changée grâce à Adra. Je me souviens particulièrement d'une dame qui m'a dit, en me montrant son bébé, que sans Adra, ce bébé serait mort aujourd'hui. Et franchement, quand on entend ça, ça a un impact incroyable. Et puis, je me souviens notamment d'un petit garçon, à un moment donné, qui m'a vu avec une bouteille d'eau à la main, il m'a demandé à boire. Alors, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'est vraiment à ce moment-là, en lui donnant à boire, que quelque chose m'a frappée. J'ai dit, mais c'est ça, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Matthieu 25, c'est une partie intégrale de notre mission en tant que chrétien, cet Adra que j'avais rencontré concrètement en Guinée. Et j'avais envie de m'engager.
Merci beaucoup, Brida. Maintenant alors, Adra France, qu'est-ce que tu attends de nous ici, membres de l'Église adventiste d'Amarie-Élis? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Adra soit l'un de ces porteurs de l'humanité souffrante? Dis-nous vraiment ce que tu attends de nous.
Bon, tout d'abord, je dois dire d'abord un grand merci, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont déjà donateurs, partenaires d'Adra France. Il y a déjà des gens ici qui sont bénévoles. Cette semaine, j'ai eu Solange et Pierrette. Merci encore pour votre aide. Suzy aussi qui vient souvent. Si vous voulez soutenir Adra, la première chose que je dirais, c'est devenez partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui donne. On demande 5 euros par mois. C'est pas grande chose, ça fait 60 euros dans l'année, mais ça nous permet, ces donateurs réguliers qui s'engagent sur le long terme, à prévoir des choses à long terme pour Adra France. Et on a un but de trouver 1000 partenaires à travers la France. Aujourd'hui, on n'en a que 250, ce qui est déjà bien. Mais...
Ça veut dire que si je prends les proportions, tu n'as qu'un seul porteur pour un quadriporteur.
C'est plus ou moins ça.
250 sur 1000. Donc, peut-être qu'il pourrait s'en ajouter quelques-uns ici aujourd'hui.
Ben, je l'espère, en tout cas. Notre bureau sœur en Espagne, Adra Espagne, a 3400 partenaires. Donc, je crois qu'en France, on est autant d'adventistes en Espagne. Alors, on peut y arriver aussi. Et si vous n'avez peut-être pas trop de moyens, 60 euros par an, ça fait un peu trop, vous pouvez devenir adhérent au moins. Pour 10 euros par an. On a aussi besoin de beaucoup d'adhérents et, parce que en fait, ça montre notre importance vis-à-vis des autorités. La première question qu'ils nous posent, c'est combien d'adhérents avez-vous? Donc si on pouvait dire 10 000 ou 11 000, parce qu'on a 11 000 d'adventistes en France, ça serait formidable. Aujourd'hui, on n'en a que 350 à peu près.
Merci beaucoup. Je crois que c'est très important. Vous avez tous reçu un papier un peu brun ce matin qui vous permet soit de devenir un membre de l'association, soit de devenir un de ses membres plus réguliers qui donne systématiquement. Maintenant, Adra, c'est quelque chose qui n'est pas très très vieux pour nous en France, alors qu'il y a des groupes Adra qui sont bien plus anciens dans certains pays. Et je crois que tu es maintenant à la veille de lancer un des projets les plus grands qu'Adra France ait jamais mis en route. Alors, est-ce que tu peux très rapidement nous dire deux mots sur ce projet et puis nous allons le regarder dans un petit film?
Donc, depuis le séisme qui a frappé Haïti début janvier 2010, nous sommes engagés en Haïti. Mais maintenant, la phase d'urgence a pris fin et il est temps de passer au développement pour aider les personnes à apprendre un métier pour pouvoir sortir de la pauvreté à long terme et ne pas être dépendant de nous. Nous ne voulons pas créer des relations de dépendance. Et donc, nous avons un chef de projet, Patricio, qui est originaire de la Suisse, qui est en Haïti maintenant, qui a monté ce projet, qui commence ce mois-ci. Et c'est un projet pour apprendre à 300 femmes le métier de la couture industrielle. Et donc, maintenant, nous allons passer une petite vidéo faite par Patricio. Par rapport à ce projet.
Petit Goave a lourdement été touché par le séisme du 12 janvier 2010, laissant plus de 200 000 sinistrés. Adra a construit à Petit Goave 1200 abris provisoires comme réponse d'urgence. Dans une suite logique de réhabilitation globale à long terme, Adra souhaite entreprendre un projet d'appui à la relance économique en vue de rétablir et de renforcer les tissus socio-économiques à Petit-Go Havre. Ce projet s'articule autour d'activités de formation professionnelle et de développement économique. Un sondage effectué auprès des 3 communautés vulnérables de Petit-Go Havre a démontré que 85% des femmes sont au chômage, en grande partie parce qu'elles n'ont pas de formation professionnelle. 16% ne savent ni lire ni écrire. ADRA souhaite organiser des formations créatrices d'emplois dans le métier du textile pour les habitants de Petit-Go Havre. L'INDEPCO est une association qui enseigne à ses membres à respecter des normes rigoureuses en couture pour l'exportation vers les pays européens et nord-américains. Les bénéficiaires sont formés en coupe industrielle à Port-au-Prince afin qu'ils puissent répondre à des commandes en grand volume de l'État haïtien ou d'entreprises étrangères. L'Institut décroche des contrats, puis décentralise sa commande entre les 400 ateliers repartis en Haïti. Ces derniers sont des partenaires autonomes. En effet, chaque atelier doit décrocher des contrats au niveau local et régional pour assurer sa pérennité. Dans le cadre du projet de couture, l'INDEPCO sera chargé de la formation de base et continue en couture, de la formation des mécaniciens moteurs et de la formation en technique de production. La formation sera supervisée par l'Institut national pour la formation professionnelle, qui s'assurera que la formation donnée dans l'atelier école du projet ADRA corresponde aux normes établies par le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle haïtien. Ce dernier sanctionnera la formation par un diplôme d'État. Les bénéficiaires directs du projet sont des femmes vulnérables ou chefs de famille qui n'ont pas de formation professionnelle et donc aucune possibilité d'être employées. Le projet prévoit la mise en place d'un atelier école à Petit-Go Havre qui sera géré par une coopérative de femmes tailleurs. Un projet similaire a donné des résultats concluants à Saint-Marc et au Gonaïves, au nord d'Haïti. Les bénéficiaires apprennent la couture sur machines domestiques et industrielles. Ils suivent des formations en gestion de micro-entreprises et en marketing. Le témoignage du responsable de l'atelier école au Gonaïves est révélateur.
Avec cette formation, ils se sont considérés comme des entrepreneurs. Ils savent comment économiser leur argent, ils savent comment développer leur entreprise. Et aujourd'hui, nous avons des ateliers solides au Gonaïves. Actuellement, au Gonaïves, nous avons des ateliers gérés par des femmes qui sont plus même solides que des ateliers gérés par des garçons.
Jésus a vu ce quadriporteur faire atterrir un brancard devant lui. Ce qu'il a vu, nous dit le texte de Marc, c'est la foi des hommes qui avaient accompagné ce quadriporteur, de ceux qui ont été les porteurs, et sans doute de celui qui était sur le brancard. La foi, ce n'est pas simplement de la théorie. La foi, ce n'est pas simplement une croyance. La foi, c'est une dynamique de vie qui nous fait marcher non pas pour nous-mêmes, mais marcher pour les autres. Vous connaissez tous sans doute ces paroles célèbres de l'apôtre Jacques qui, dans sa lettre, essaie de nous résumer en quoi consiste le christianisme. L'apôtre Jacques nous dit ceci au premier chapitre de sa lettre et au verset 27, le dernier verset de ce chapitre. Il explique ce qu'est la religion, la concrétisation de la foi. Il nous dit ceci, la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous sommes là avec des vies qui sont souvent dans le besoin, mais des vies qui, grâce au Seigneur Jésus, sont des vies debout, des vies qui peuvent marcher. Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui à ne pas marcher de façon déséquilibrée, mais à marcher comme si vous étiez dans une voiture à quatre roues qui est bien stable, en ayant au moins, en plus de votre roue de foi, une roue qui soit une roue qu'on appelle ADRA, une roue humanitaire, une roue engagée, une roue qui vous permet à tous et à toutes de vivre vraiment cette religion pure et sans tache devant Dieu et devant les hommes, qui consiste à être sensible aux afflictions des plus faibles et des plus démunis. Merci de ce que vous ferez, entre autres en remplissant les bulletins qui vous ont été donnés. Le Seigneur vous garde.
Ces bouches affamées, tant de désastres, voilées des espoirs, arrête un instant, regarde dans les yeux, semble de nous attendre supplication. S'étend vers toi, vois ces destins qui sont brisés, bouleversés. Et dans la vision, prends ta décision. Ne sois pas sourd, attends l'imploration et prends la main. Oui, cette jambe voit tant de vie disparaître, fait la différence. Quel an est pour toi le prix, touche en vie. Reprends en zéro, montre l'amour de Dieu et soigne un cœur en paix. Pourquoi nous prends-tu pas cette main?